j'avais une question pour Jean-François, mais une question un tout petit peu technique pour préciser ce qu'il a dit sur les smart grids. Je la pose maintenant et non pas dans le débat ultérieur, parce que justement elle est de cette nature. Tu as cité ce qu'ont limité les Hollandais, là, les outils de suivi des fluides, le comptage. J'ai pas encore très bien compris comment s'articuler la smart grid qui est au niveau du réseau électrique et qui permet grosso modo de bien gérer l'ensemble des productions et consommations, si j'ai bien compris, des uns et des autres, et d'harmoniser tout ça et d'optimiser tout ça. Et puis ces outils qui se développent un peu innovants mais qui commencent à être connus, qui se développent maintenant massivement, personnellement pour le ministère de la Défense où je suis, on est en train de mettre en place un sous-comptage avec un investissement sur le plan de relance qui est monstrueux, et avec dans l'idée de se doter d'un outil de suivi des fluides de toutes les emprises du ministère, qui permettra à terme d'avoir une visibilité sur ce qu'on consomme réellement, emprise par emprise, et surtout bâtiment par bâtiment, fonction par fonction. Et là, on est réellement dans une gestion qui va vers l'efficacité énergétique, une meilleure gestion du patrimoine. Ma question est double. D'une part, comment les deux systèmes s'articulent et se complètent ou techniquement sont compatibles. Et l'autre question est plutôt sur la maîtrise de l'outil. Est-ce qu'il n'y aura pas une peur, parce que je reconnais les réticences en interne chez moi, est-ce qu'il n'y aura pas une peur d'un certain nombre de grands usagers si cet outil est géré par le fournisseur d'électricité, finalement, ils perdent le contrôle, ils perdent complètement la main sur la gestion de son énergie.
Ta première question, elle est bien sur l'articulation à la fois gestion du réseau, d'une part, et comptage. On peut séparer les deux problèmes d'une certaine façon. On va dire que pour les gestionnaires de réseau, pour les énergéticiens, il y a à gérer un réseau dans lequel apparaît une production fortement décentralisée qui pose des quantités de problèmes techniques, mais vraiment des quantités de problèmes techniques sur lesquels il y a des quantités d'équipes, mais pas seulement chez les énergéticiens, dans les universités, qui travaillent pour arriver à intégrer une production, comme l'a dit notre collègue tout à l'heure, c'est une production qui, certes, vous allez avoir 10 à 20 gigawatts installés, mais en gros, c'est un facteur d'efficacité de production, que ce soit par le soleil ou par le vent, qui est bien moindre que des centrales classiques. Ça pose cette intermittence et cette imprévisibilité de la production pose des quantités de problèmes aux techniciens. Donc, tu as un problème dans la gestion, l'insertion de cette production, dans des réseaux qui étaient globalement conçus comme descendants, tu as des choses qui s'injectent un peu partout. Je fais simple. Ça pose des quantités de problèmes. C'est un débat en soi, essentiellement technique ou technico-économique. Il y a un deuxième aspect qui est effectivement la maîtrise. Ça contribue à la réduction maîtrise de l'effet de serre, réduction de l'effet de serre et donc développement des énergies renouvelables. Ça, c'est un aspect. Il y a un autre aspect qui est maîtrise de la demande d'énergie. Je fais simple. Là aussi, je suis un peu caricatural, mais qui est finalement, surtout les consommateurs, comment leur donner le moyen, comment peuvent-ils avoir le moyen, comment les aider, voire les piloter s'ils te délèguent. La maîtrise, c'est réduire leur consommation d'énergie. Bon. Et là, tu passes par des mécanismes articulés entre des compteurs intelligents, c'est-à-dire dotés, l'intelligence de la NTIC, qui te permet, soit du côté consommateur, de maîtriser toi-même, parce que tu vois que tu peux jouer un petit peu, si tu es très motivé. Notre impression, c'est qu'un certain nombre de consommateurs seront motivés, mais ça sera un segment seulement. Puis il y en a d'autres qui seront moins motivés et qu'il faudra aider ou avec qui il faudra contracter pour leur faire des propositions, etc. Bon. Donc c'est sur ce type de travaux, tu vois, c'est une deuxième facette. Alors sur la question après, la deuxième question, je pense que dans une administration qui veut gérer efficacement ses économies d'énergie, je pense que tu peux gagner beaucoup avec ces systèmes-là et tu tombes pas sur le problème que j'évoquais par contre de propriété privée, enfin tout au moins de la vie atteinte à la vie privée que tu vas trouver chez les consommateurs particuliers, qui est un sujet sur lequel d'ailleurs il va falloir que les sociologues, les juristes se penchent, parce que il faut qu'on donne des conditions dans lesquelles on offre des conditions qui respectent les règles du jeu Alors après, il y a des débats qu'on a évoqués hier, hein, c'est comment le comportement peut être incité, développé, contraint à aller vers ça quand on est dans des scénarios gris, voire noirs. Alors là, il y a d'autres questions qui se posent et qui sont des problèmes politiques. Très clairement, plus qu'éthique, c'est de la politique.
Albi ?
J'ai l'impression qu'en France, on est assez en retard sur les États-Unis, puisqu'il y a 10 ans, on parlait déjà de smart grids en Californie, où ils commençaient à le développer à l'échelle de d'agglomération et autres pour les tester.
Oui, mais c'est meilleur.
Et quand je regarde les résultats du premier appel à projet sur les premiers appels à projet sur les pôles de compétitivité, en France, j'avais en tête qu'il n'y en avait qu'un qui, de façon tout à fait accessoire, c'était le pôle de Tours. S2E, je ne sais plus quoi, là, qui s'en occupait, qui avait développé quelque chose. Est-ce que dans le nouvel appel à projet sur les écothèques, il y a des choses qui vont sortir?
Je ne peux pas te répondre sur le dernier point précisément. Ce qui est sûr, c'est que là, il y a tout un ensemble. Il y a une mobilisation. Alors, il y a sans doute des retards, encore que par rapport aux États-Unis, encore que ça doit dépendre des États. Tu as raison sur la question. Là, je pense Californie. Mais là, le mouvement, l'accélération proposée par Obama, notamment voyant ça comme un des axes de relève, ça rejoint les questions sur la relance, le grand emprunt, il le voit comme un des axes, justement, de redynamisation, un axe de redynamisation de l'économie américaine autour de nouvelles technologies et énergie. Hein. Et d'ailleurs, il gère plusieurs problèmes. Hein. C'est le problème énergétique américain qui est quand même sur la table depuis longtemps Là, c'est un vrai développement, on ne peut pas en parler là, mais c'est vraiment un très très gros problème chez eux, avec des débats très compliqués entre le Congrès, le Sénat, et que ce soit les républicains ou les démocrates. Et puis, c'est effectivement le développement, profiter de tout l'avantage qu'ils ont en termes de... Ils ont des opérateurs dans le domaine des TIC très avancés, comme tu le dis, et sur lesquels ils peuvent effectivement forger un outil, y compris d'exportation, hein, qui peuvent être performants. Alors, par contre, ce que je vois, c'est en Europe, en tout cas, là, une très très forte mobilisation que je n'avais pas complètement perçue il y a encore quelques mois, c'est en faisant quelques tours à Bruxelles et puis dans quelques villes européennes. Je vois qu'à la fois les institutions européennes sont très mobilisées sur cette question-là. Donc il y a une espèce d'accélération du temps. Alors là aussi, hein, il y a eu un petit intermédiaire, en guise de conclusion provisoire, il y avait une petite fleur avec les éoliennes et tout. Le monde est pas rose, ça ne va pas non plus se faire en 5 minutes, ça va peut-être accoucher dans certains endroits ou sur certaines questions de souris. Mais je pense qu'il va y avoir vraiment un mouvement, et ce mouvement s'accélère aujourd'hui, est en train de s'accélérer en Europe. Et en France, je te dis, alors là, vraiment, l'ADEME, hier soir, on m'a annoncé que l'ADEME, qui avait donc fait cet appel à manifestation d'intérêt autour des questions Smart Grids, va augmenter encore le financement. Les distributeurs européens sont en train de viennent de déclencher, il y a 7 des grands distributeurs européens, dont les Français, viennent de déclencher une très grosse opération, une très grosse initiative industrielle en lien avec la Commission européenne autour des smart grids. Donc il y a une accélération, clairement. Bon, faudra voir après, hein, mais puis on voit dans les universités, ça bouge, ça s'est mis à bouger beaucoup. Moi, je pense que tu peux témoigner.
Si, Grenoble en particulier, hein, est très en pointe, comme tu parlais de Grenoble tout à l'heure, très en pointe sur ce sujet.
Deux questions, deux remarques et puis une petite pause. Vas-y, Vincent.
Bon, je vais peut-être m'éloigner un tout petit peu du sujet, mais il me semble que le problème de la smart grid avec le consommateur, c'est pas seulement le problème du poulet et de la douche. C'est le problème plus général de.
Le poulet. Oui, c'est le contrôle de ta vie privée par ta consommation énergétique.
Le repérage de tes usages.
Alban, la caractérisation dans le débat d'experts, c'est les capacités qu'offre ce type de système. Sont absolument phénoménales. À la limite, toutes les secondes, on est en capacité à dire à tel endroit, il y a telle consommation.
Oui, oui.
Et donc après, on est en train de... Le débat, c'est de dire sur quel pas on autorise les acteurs du système à repérer. Est-ce que c'est un pas de 1 minute, de 10 minutes, d'une demi-heure, d'une heure? On est autour de ce débat-là. Hein.
D'accord. Et je voudrais insister sur... Il me semble que c'est finalement un problème qu'on voit surgir dans pratiquement toutes les activités, puisqu'on parle de routes intelligentes. De la même manière, les voitures vont être surveillées. C'est un problème qu'on a vu arriver chez les agriculteurs il y a déjà 5-6 ans, puisque les cuvalets sont bourrés de capteurs, les tracteurs n'en parlons pas.
C'est pas les agriculteurs qui sont intelligents, c'est les tracteurs.
Ça pose un problème difficile, qui est celui, sans parler des échanges de données informatisées entre les coopératives, les centres de gestion, etc. Donc ça, et on a des petits entrepreneurs qui sont traversés par des flux de données qui produisent pour une large part, mais par rapport auxquels ils sont complètement passifs. Alors, moi je trouve que ça, si on l'élargit aux smart grids, aux bagnoles intelligentes, etc., on se trouve devant une situation de fait, je crois que on a un problème de démocratie. Je ne suis pas sûr que la cléricature des juristes ou des sociologues suffit pour créer, j'allais dire, enfin, pour mettre dans les enjeux vraiment le citoyen. Je ne suis pas sûr que cette nouvelle cléricature sera à la hauteur des enjeux de démocratie. En même temps, on l'a bien vu sur les agriculteurs, dès que l'agriculteur peut rendre son micro à celui qui va faire pour lui et qui va le décharger d'une saisie de données, d'une interprétation des données dont les enjeux lui échappent, il va le faire. Voilà, donc peut-être qu'il faut de nouveaux types d'associations de citoyens pour, malgré tout, que chacun de nous ne soit pas complètement absent de cette... observation permanente.
Merci Alain, et puis Luc pour conclure.
J'ai une question très pratique, hein. C'est que je m'interroge sur l'action des collectivités par rapport à ce sujet. Et moi, je ne pouvais pas être là hier matin, mais je pense que dans la discussion des travaux du groupe 1, on a essayé de montrer le problème un peu de cohérence de l'action des collectivités par rapport à l'ensemble des champs qui touchent à la question énergie-climat. Et aujourd'hui, les acteurs qui sont compétents en termes d'élus locaux, enfin, je pense que les collègues élus qui sont là pour le compléter mes propos, mais c'est plutôt les syndicats départementaux d'électrification. Et moi, je note, c'est un exemple concret, que les trois syndicats d'électrification des trois départements qui constituent ma région sont des acteurs avec qui nous n'avons strictement aucun échange. Au niveau régional, les agglos n'ont strictement, les agglos ou les pays, hein, c'est-à-dire les élus locaux, communautés de communes, etc., n'ont pratiquement aucun échange. Et je crois même que les départements, parce que j'ai travaillé 4 ans dans un département, j'étais chargé du service de l'environnement, nous n'avions aucun contact avec le syndicat départemental d'électrification. Donc, quelque part, je me demande, alors, c'est nul chez nous peut-être, mais je m'interroge un peu sur la façon dont on peut, à l'échelle d'une agglo ou d'une aire urbaine comme celle de Caen, pour reprendre l'exemple de Caen Métropole et du SCOP dont je parlais hier, je sais que par exemple dans l'élaboration du plan climat et dans l'élaboration du SCOP de cette aire urbaine, il n'y a a priori eu strictement aucun contact avec le syndicat départemental d'électrification, et qu'en tout cas la question du réseau intelligent... je pense qu'elle n'est pas du tout abordée. Alors, tout simplement, peut-être parce que c'est des gens qui ne se parlent pas ou qui, à un moment donné, ne voient pas en quoi il faudrait qu'ils discutent et qu'ils avancent et en quoi la question, elle est globale, consommation, distribution, gestion du réseau, quoi. Enfin, donc, en fait, ma question très concrète, c'est est-ce que vous avez des exemples de territoires significatifs, soit d'agglos, soit à l'échelle d'une aire urbaine, enfin, qui investissent cette question du réseau et qui, du coup... comment se traite la question des compétences entre des acteurs qui sont quand même assez différents. Les syndicats départementaux, a priori, sont très autonomes par rapport à ça.
Jacques est rentré ou quoi? Il est revenu? Ouais. Tu peux peut-être donner un éclairage. Pendant que tu étais absent, moi, j'évoquais le fait que vous aviez répondu à l'AMI de l'ADEME, et avec aussi des partenaires de collectivités.
Que je peux en dire, enfin, c'est assez compliqué de ce côté-là. Enfin, j'ai envie de mettre en évidence une situation de monopole qui a changé. Enfin, on a eu un séminaire de 2 jours là-dessus qui a quand même un gros impact encore maintenant sur l'architecture globale la distribution d'électricité en France. On travaille sur ces questions-là, donc on travaille à l'échelle. Enfin, nous, on a quelques opérations de MDE, donc de maîtrise de la demande d'électricité, en l'occurrence en Bretagne, parce qu'on refusait la centrale nucléaire, donc sur le pays de Saint-Brieuc. Et donc, on déploie là, dans deux mois, 2000 boîtiers, donc mélangés en fonction des différents fournisseurs de boîtiers de Smart Grid. Donc, il y a Enedia, qui est une filiale EDF, Schneider et Voltalis. En fait, la grosse question en ce moment, c'est de savoir comment on peut rentabiliser l'économie d'électricité. Donc, en fait, le véritable intérêt en ce moment, c'est ça. Maintenant, comment les gens discutent, on travaille avec le syndicat d'électricité sur cette zone-là. On ne les laisse pas tout seuls, mais c'est assez compliqué parce qu'en fait, la vraie difficulté là-dedans pour donner un coup de main, c'est d'avoir l'information. Et l'information, elle est stratégique et elle est un peu secrète, pour être très clair, en termes de courbe de charge, ainsi de suite, pour faire les analyses. Chacun a son précaré et on n'arrive pas à partager en fait. Même sur les boîtiers, hein, la vraie guerre, pas plus tard que lundi, j'étais en ligne avec le directeur général de Voltalis. On lui demandait de récupérer les informations sur les boîtiers qui étaient mis en place, les courbes de charge et la consommation, d'ailleurs anonymisées, on s'intéresse pas à la façon dont les gens consomment. Et en fait, il nous a répondu que c'était plusieurs zéros avant la virgule pour récupérer ces informations-là. Donc ils ont tous l'intention de l'utiliser et de jouer à Big Brother avec ça. Donc, pour donner un peu le schéma, on a du mal à sortir un peu de ce créneau-là. Par contre, ce qui est clair, c'est que ce marché-là est en train de s'étendre, que Bruxelles est en train de s'en occuper. Il y a un particularisme français quand même, qui est le coût d'électricité en France, qui est quand même moins cher d'Europe. Et je ne suis pas sûr que, en termes de production, le producteur d'électricité principal français ait intérêt à trop bouger là-dessus. Il va attendre tout simplement que les Allemands et le reste de l'Europe nous demandent de remonter le coût d'électricité pour pouvoir rentabiliser un peu plus son réseau. Donc il n'y a pas trop d'intérêt pour aller jouer, encore une fois, problème offre-demande. On s'occupe encore de l'offre et on ne prend pas en compte assez la demande. Donc Smart Grid va peut-être aider à ça.
Donc simplement, vu de moi, j'ai pas tout à fait le même avis,
tu peux t'en douter. Parce que je pense que effectivement, c'est quelque chose qui est incontournable pour les énergéticiens. Alors ça émerge plus ou moins vite selon les conditions économiques. Et là, je rejoins Jacques, tu as des conditions qui favorisent, et évidemment l'électricité est vachement chère, tu valorises plus facilement certains types d'opérations. C'est clair, hein, mais tu ne peux pas avoir l'avantage et les inconvénients. L'avantage d'avoir une électricité peu chère aujourd'hui, mais aussi l'inconvénient que tu développeras moins facilement des opérations de ce type-là. Mais pour répondre plus précisément à ta question, là, à la fois l'exemple de Jacques, et puis nous, dans les opérations qui sont montées pour les démonstrateurs de l'ADEME, il y a des collectivités qui sont impliquées. Alors, c'est des chaussées, nous, on est dans 4-5. Tu ne peux pas aujourd'hui faire des démonstrateurs autour des startups, puisqu'on se focalisait là-dessus, hein, mais il y a plein d'autres sujets d'innovation, autour de l'énergie en tout cas, mais tu ne peux pas le faire sans les territoires. Ça, c'est pas possible. Alors après, tu as des gens plus ou moins motivés, plus ou moins affûtés. Mais ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu touches là, par exemple, tu vois, du côté de Nice, tu travailles sur les quartiers solaires, c'est évident que tu discutes avec les élus. Quoi. C'est pas possible de travailler. Et c'est ça, si tu veux, je pense que cette prise de conscience va venir, d'autant plus que quand on aura des outils technologiques, et a fortiori s'ils sont rentables économiquement, alors là, ça va se mettre à bouger, quoi, fortement. Là, il y a encore une petite incertitude, Jacques, effectivement, sur, et là je suis d'accord avec Jacques aussi, sur la rentabilité économique. Donc les gens sont encore assez prudents. Mais sur le plan technologique, on voit qu'il y a des potentiels. Juste pour rajouter, pour remoduler le propos, ce qui est important de comprendre, encore une fois, c'est un peu ce qu'on disait hier, quant à la tarification, c'est qu'en fait, il y a une grosse partie, c'est comme pour le transport, ce qu'on évoquait hier sur le plan climat, on s'aperçoit que dans le cadre des GES ou du changement climatique, comme vous voulez, ou en tout cas de la donnée économique, finalement, c'est en maîtrisant des choses simples, donc type le comportement routier, rouler moins vite, ainsi de suite, pour émettre moins, vous allez avoir la même chose sur la consommation d'énergie, et que finalement, les marges de manœuvre essentielles sont plutôt sur une logique tarifaire, involontaire. Enfin, ça, c'est notre point de vue. Hein. Je pense que Jean-François n'est pas forcément d'accord. Mais il y a une grosse partie là-dessus, c'est du tarif propre de l'énergie et de l'électricité pour pousser les gens, en fait, à faire de l'économie. Plus que, encore une fois, d'essayer de gérer les effacements de pointe ou des choses de ce type-là, qui, finalement, c'est vrai, coûtent très cher en investissement. Et on peut y arriver sans avoir besoin d'investir comme ça. Donc, on peut rentrer dans...
on va dire, dans une espèce d'économie de, du kilowattheure économisé. Et ça, ça doit pouvoir fonctionner.
Tu l'as pas vu.
Bon, c'est bien, c'est... merci. Luc, deux mots et on fait une pause.
Moi, je voulais poursuivre le commentaire de Vincent sur la question de l'information. J'assistais la semaine dernière à une table ronde à laquelle participait Eric Fotorino et qui mentionnait le fait que justement, quelquefois, on ne sait pas qu'on sait. Et toute la question de l'information, c'est ce qu'on en fait. Et je dirais qu'en matière... de défense, l'histoire du 11 septembre illustre aussi comment des quantités d'informations qu'on ne sait pas traiter peut aboutir à l'ignorance d'une certaine manière. Et moi, je fais un parallèle avec les travaux de recherche de Dominique Volton, qui a écrit un petit bouquin aux éditions du CNRS, là, qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui s'appelle « Informer n'est pas communiquer ». Et en fait, il nous montre que plus les systèmes d'information se développent, plus ils peuvent mettre en péril la question de la communication. Je crois que c'est important d'avoir à l'esprit que la communication, c'est quelque chose qui a été relativement confisqué par la mercatique, pour prendre un terme français, même si c'était à la mode de parler dans la langue de Shakespeare, et pas de parler de marketing, mais dans la mercatique, on parle de la com, on s'imagine que la com, c'est forcément la publicité, un certain nombre de choses. La com, c'est aussi la théorie de la communication, la théorie des systèmes, et dans la théorie des systèmes, l'information, c'est un élément dans l'input, mais ensuite, la complexité du système, elle est d'une autre nature. Et je crois que c'est Armand Matelard qui racontait que dans les réseaux mondiaux de communication, ils se sont souvent constitués à partir des gens qui étaient les constructeurs des tuyaux. Et que du coup, on n'a pas de réflexion globale sur le système. Et je crois que la réflexion globale sur le système, et ça va faire la transition avec la table ronde, c'est une question éminemment politique. Parce que dans la politique, dans la question du vivre ensemble, dans la question de la construction, c'est comment on communique à partir d'une société où sa complexité procède aussi par la quantité d'informations qui est disponible, et comment on fait en sorte que cette quantité d'informations devient un élément d'une intelligence collective. Ça, c'est une communication qui appelle pas que l'intelligence des réseaux, mais l'intelligence qui est avant tout une qualité humaine, et faire en sorte qu'il y ait l'intelligence politique qui relaie l'information. Et je crois que ça, c'est un vrai défi pour toute la question du développement technologique, etc. Et effectivement, il y a forcément une dimension éthique dans la question de la communication entre des êtres humains qui ne sont pas des machines.
En tout cas, vous avez donné une belle démonstration d'intelligence collective.